gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une pensée qui nous ramène à une décision. Il y a toujours des décisions à prendre. Et parfois, on a du mal à prendre les décisions parce qu'on dit qu'il nous manque des informations, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas ? Et il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Écoutez, moi, je lis la Bible, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi. J'ai commencé par l'Ancien Testament et les généalogies, c'est long, c'est compliqué. Il y a des noms qu'on ne connaît pas, si c'était que les noms. » C'est vrai qu'il y a des noms compliqués dans la Bible et on pourrait croire que c'est loin de, tout, de nous tous, tout ça. Mais en réalité, Jésus est venu pour nous expliquer les choses avec facilité et nous permettre de mieux saisir la volonté de Dieu, le Père. Dans la lecture de la parole de Dieu, certains recherchent tout simplement les miracles, sont intéressés par les miracles que Jésus a faits. D'autres sont plus intéressés par les histoires. Il y a des histoires incroyables dans la Bible. L'histoire de David, Goliath, vous connaissez ? Très bien, on ne va pas parler de ça ce soir. Il y a l'histoire d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses incroyables avec Dieu. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, alors que le Nouveau Testament nous parle de ce Jésus, le Fils de Dieu qui est venu parmi les hommes pour nous faire connaître le Père, on est parfois étonné de voir la manière où Jésus parle au peuple. Et d'ailleurs, les disciples eux-mêmes, ils vont dire à Jésus, « Mais pourquoi tu prêches comme ça ?» J'ai été étonné de quelque chose, et je suis sûr que vous en avez fait aussi la même réflexion, c'est qu'il y a un moment dans les évangiles, les disciples diront à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Mais on ne les voit jamais dire à Jésus, « Enseigne-nous à prêcher. » Puisque le mandat qu'il va leur donner, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein » Et il était question pour eux de prêcher l'évangile. Mais pourtant, on ne voit pas les disciples être attentifs ou en tous les cas, être à ce moment-là intéressés par le fait de prêcher. Ils se disaient « Tant que Jésus est là, c'est lui qui prêche. Hein, » C'est pratique quand on sait qu'il y en a un qui prêche tout le temps. Et Jésus savait très bien prêcher. Mais néanmoins, se sont posés des questions et peut-être que vous aussi, vous vous êtes posé la même question. Alors, on va analyser cette question et on va voir aussi la réponse de Jésus à cette question. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 10 au verset 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» C'est une question. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir leurs yeux, d'entendre leurs oreilles, de comprendre leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Amen. » Ce premier texte nous amène à une image qui suit, qui finalement il nous montre un peu une réalité. Vous avez certainement déjà vu cette image, c'est plutôt avec trois singes, non ? Mais l'idée, c'est de parler de l'être humain qui refuse de voir, qui refuse d'entendre, qui refuse de parler. Jésus est interpellé par les disciples qui lui disent « Mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole ? Pourquoi tu ne parles pas d'une manière encore plus claire ?» Alors Jésus leur dit « Mais à vous, ça a été donné. » En effet, les disciples étaient sensibles à la pensée de Dieu, était sensible et cherchait Dieu. D'ailleurs, quand vous faites la lecture dans les évangiles, quand Jésus s'approche d'eux, il leur parle et ils entendent les témoignages et la parole de Jésus-Christ, ils sont touchés dans leur cœur. Et dès que Jésus leur dit « Suivez-moi », dit la parole de Dieu, ils ont tout quitté et ils l'ont suivi. Leur cœur était prêt, leur cœur était dans l'attente de la venue du Messie. Donc, ils avaient pas une prédisposition, mais un désir, une volonté. Dieu nous a tous prédisposés à entendre sa parole. Vérifiez bien, vous avez des oreilles. Dieu nous a tous prédisposés à recevoir sa parole. Votre cœur bat bien. La question, c'est que parfois, l'être humain s'enferme dans des raisonnements, s'enferme dans des visions personnelles des choses et refuse tout le reste. Comme beaucoup aujourd'hui se disent, si Dieu existait, il ferait ceci, il ferait cela, comme si Dieu avait besoin de nos conseils pour savoir quoi faire. En réalité, Jésus répondra à la question de ses disciples en lui disant, mais il leur a été donné, mais malheureusement, ils ont fait des choix. Et dans la volonté de Jésus de prêcher par des paraboles, les paraboles, c'était prendre des histoires, des événements de la vie courante pour expliquer un principe spirituel. Rendre finalement les choses qui sont spirituelles et célestes visibles et compréhensibles par tous les hommes. Pourquoi Jésus fait cela ? Justement parce que les hommes, ils s'étaient enfermés et ils refusaient de voir. Et Jésus, dans sa volonté et dans la volonté du Père, il est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Et il ne faut pas que qui que ce soit se dise « Ah, si j'avais su !» Parfois, on se dit « Si j'avais appris ça avant, aujourd'hui j'en serais ailleurs. » Mais je crois que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous sachions les choses en temps et en heure. Et après, c'est à nous de prendre la décision. D'ailleurs, Jésus leur expliquera qu'à eux, il aura été donné de comprendre les choses des cieux. Mais malheureusement, le peuple, ce monde, il se retrouve à vivre l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe 600 ans plus tôt. Comme quoi Dieu connaît tout, voit tout et sait toutes choses. Et il leur dira, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point. On peut parfois refuser de voir la réalité, n'est-ce pas? On peut entendre des choses et refuser d'entendre des vérités aussi. On peut s'entêter d'une manière au point que on a beau nous dire tout ce qu'on veut, on reste de notre position. Est-ce que vous connaissez des personnes aussi têtues? Oui? Ah, vous en connaissez? J'en étais un. Je vous rassure, si vous en connaissiez pas, ben vous en connaissez un maintenant. On peut être parfois très têtu dans nos positions. Et c'est terrible quand on prouve par 1 plus 1, ça fait... Et l'autre personne vous dit non, ça fait 4. Il dit, mais il faut retourner à l'école. C'est pas possible que tu raisonnes comme ça. 1 plus 1, ça fait... Revois tes mathématiques. L'être humain, il a tendance à vouloir voir ce qu'il veut, accepter ce qu'il souhaite et refuser tout ce qui le dérange. Certainement, depuis ce matin, vous avez fait des choix. Vous avez pris ce qui vous convient et vous avez refusé ce qui ne vous convient pas. Non ? Pour venir dans ce lieu, peut-être vous avez choisi les routes qui étaient les plus courtes ou en tous les cas, qui vous permettaient de gagner du temps. Est-ce que c'était la bonne route à prendre ? Peut-être pas, mais le but c'était d'arriver plus vite, plus tôt et parfois, il faut être sincère, hein, parfois il y en a qui savent que la limitation est à, mais on pousse un peu plus, parce qu'on fonctionne comme ça, c'est l'être humain. Et Jésus est en train de leur dire, mais vous voyez, à cause de cela, il dit au verset 15, car leur cœur, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur insensible ? Il ne ressent pas les émotions. Très bien. Qu'est-ce que c'est un cœur insensible ? Je vous écoute. Dur, orgueilleux. Heureusement qu'il n'y en a pas parmi nous. Hein. On est exonéré de tout ça. Un cœur insensible, c'est un cœur aussi qui refuse la vérité. C'est un cœur qui, malgré tout, reste dans une position, même si tout est prouvé, tout est là, et devant ses yeux, il dit non, 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 c'est comme ça. Un cœur insensible, c'est celui qui ne prouve plus de sentiments, même malgré l'amour qu'on peut lui faire preuve. On a chanté des chants tout à l'heure qui nous parlent de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, qui a accepté, lui, d'aller à la croix pour nous. Moi, je sais qu'il y a eu un moment dans ma vie où, personnellement, je sentais aucune affection pour qui que ce soit. Mon cœur était devenu dur. Et il a fallu que Dieu m'aide et qu'il vienne à mon secours. Parce que je ne prouvais de sentiment pour personne si ce n'est que de la haine et de la colère. Ça, j'en avais à revendre. Jusqu'au jour où le Seigneur a manifesté sa grâce, son amour, et qu'à partir de là, je me suis remis en question. Au point de dire un jour à Dieu, « Mais si tu ne me donnes pas un cœur changé, comment je pourrais un jour te servir ?» Et vous savez, Dieu entend nos prières. Croyez-moi, Dieu entend votre prière. Peut-être un jour, vous vous êtes dit dans votre tête, « Si seulement un jour je pouvais avoir et entendre la parole de Dieu telle que je dois l'entendre, alors je vais me convertir. » Eh bien, dites-vous que peut-être ce jour est arrivé, n'est-ce pas? Mais il est question pour nous aussi d'accepter, de dire, « Seigneur, je te fais une prière et j'attends ta réponse. » Qu'est-ce qu'est la prière? Alors les disciples ont dit à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Et lui, il aura appris le Notre Père. Mais le Notre Père, c'est un modèle. Ce n'est pas la seule prière. En réalité, Dieu nous invite à ouvrir notre cœur, notre bouche, et de lui exposer ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Donc, tout le monde peut prier. Même vous, ce soir, en rentrant chez vous, rien ne vous empêche de prendre un moment et de prier, d'exposer à Dieu votre besoin. Alors, oui, mais je n'ai pas les jolis mots. Dieu n'a pas besoin de jolis mots. Dieu veut entendre votre cœur. Votre cœur. D'ailleurs, si vous voyez bien dans le texte que nous avons lu, il dit « Car leur cœur est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. » Vous avez déjà vu les enfants quand ils jouent à se boucher les oreilles? Vous l'avez fait, vous? Combien de fois? Hein? Ça vous arrive d'être tenté de vous boucher les oreilles? Hein? Ou dire de « je ne regarde pas ». Moi, une fois, j'ai vu quelqu'un, il était en train de faire un accident, il conduisait, il s'est mis les mains devant les yeux. Je dis « non, ce n'est pas le moment. Garde ton volant ». Vous savez, on choisit toujours les mauvais moments pour prendre les mauvaises décisions. Ça fait une mixture qui est terrible. D'ailleurs, Jésus le dit. Et le but de ça, il se ferme les oreilles, il se bouche les oreilles, il se ferme les yeux, pour éviter de se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Changer de direction. Vous avez déjà vu combien c'est pratique un GPS? Ah, combien c'est utile! Non? Et quand il vous dit, faites demi-tour, pourquoi? Ah, ça arrive aussi sur l'autoroute, oui, ça m'est arrivé. En plein silence, tout le monde dormait dans la voiture, à un moment le GPS, faites demi-tour dès que possible. Ça ne va pas. Hein? Il avait perdu le sens de l'orientation. Mais en général, c'est pour nous avertir qu'on a pris une mauvaise direction. Et se convertir, c'est changer de direction. D'ailleurs, on va voir de quoi Jésus nous invite à nous convertir, de quoi Jésus nous invite finalement à ouvrir notre cœur pour ne pas rester insensible, mais surtout pour laisser Dieu nous guérir. Il y a certainement des blessures qui nous ont amenés à vouloir fermer nos yeux et à boucher nos oreilles. Il y a des choses qu'on refuse de voir à nouveau. Il y a des choses qu'on refuse d'entendre encore parce qu'il y a déjà des blessures. Et le Seigneur, lui, nous invite à lui faire confiance et le laisser nous guérir. D'ailleurs, je vous invite à lire ce qu'il suit, toujours en Matthieu, chapitre 13, les versets 24 à 30. C'est encore Jésus qui parle. C'est encore Jésus qui enseigne ses disciples. Et il leur proposa une autre parabole. Et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et leurs serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. » Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Jésus est en train de parler à des hommes qui vivaient du travail de la terre. Vous avez déjà essayé de discuter avec quelqu'un qui a l'habitude de travailler la terre ? Si vous êtes comme moi, qui n'ai pas la main verte, alors je ne peux rien dire. J'essaie juste d'apprendre. J'essaie juste de comprendre. J'ai fait une expérience, c'est quand on s'improvise botaniste. Mes parents avaient installé des arbres fruitiers dans le jardin. Et un matin, je vois mon père et ma mère partir pour s'occuper de couper les branches qu'il fallait couper. On appelle ça comment ? La taille. Voilà. Le problème, c'est qu'un taille à droite et l'autre taille à gauche. Et l'arbre qui portait tellement de fruits, à la fin, il ne restait que le tronc. Et vous savez, nous, parfois, on s'improvise parce que maintenant, vous apprenez, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur Internet. Hein. Vous avez vu ? Vous décidez d'apprendre un instrument, vous allez sur Internet, vous avez plein d'informations. Mais apprendre ce que la Bible dit, ce n'est pas question d'Internet. C'est question d'ouvrir une Bible, de commencer à lire et dire, Seigneur, apprends-moi à comprendre. Et là, Jésus, lui, qui est fils d'un menuisier, n'est-ce pas ? D'un charpentier ? Et en train de dire à des hommes qui travaillent la terre, et leur parle de quelque chose qui doit certainement les interpeller plus que toute autre chose. Et Jésus, dans cette question, il explique finalement que ce monde se retrouve à vivre dans quelque chose qui est étrange, qui est mélangé. Si on peut mettre l'image d'après, quand on regarde ce champ, on se dit c'est magnifique. Non ? Mais si vous regardez bien, alors si vous arrivez à le voir, il y a une différence de couleur. Il y a ce qui est doré, il y a ce qui est vert. Ce n'est pas une question de degré de maturité, c'est question qu'il y a du mélange. Il y a ceux qui s'est laissé mûrir par le temps, et c'est vrai qu'on mûrit tous avec le temps, non ? C'est comme le vin. En vieillissant, normalement, mais il y a du vin qui devient du vinaigre. Comment le vin peut devenir du vinaigre ? Qu'est-ce qui peut causer une telle chose ? Être mal entretenu, mal géré. Peut-être qu'il n'était pas bon dès le départ. Hein ? On s'attend à quelque chose de délicieux et après, finalement, c'est la grimace. Celui qui a cultivé ce champ se retrouve finalement à quelque chose auquel il n'était pas préparé, parce que lui, à la base, il avait semé de la bonne semence. Mais Jésus prendra cet exemple pour la photo d'après, pour montrer qu'en réalité, il y a deux réalités livrées. Aujourd'hui, pour nous, peut-être ça ne nous parle pas trop, mais le mot d'origine, finalement, c'est zizanie. Un ennemi est venu pour semer la zizanie. Si vous prenez le mot en grec, ce n'est pas ivraie, c'est zizanie. D'accord ? Donc, on voit une différence claire entre le blé et l'ivraie. Alors, c'est au moment finalement de la maturation que ça se voit. C'est au moment où finalement on arrive au moment de la récolte. Et Jésus prend cet exemple pour prêcher aux hommes de sa génération et à nous encore ce soir, de dire « Ne soyez pas étonnés des temps que vous traversez, parce qu'il y aura un temps où beaucoup de choses seront mélangé, où il y aura de la confusion, où il y aura de la zizanie, où il y aura de la discorde, où il y aura des complications, où il y aura de la folie, où il y aura de la guerre, où il y aura finalement des conflits au niveau mondial, mais bien souvent, malheureusement, des conflits même dans un même foyer. On parle parfois d'incompatibilité de caractère, conflit dans le couple. Des conflits dans le lieu de travail. Des conflits, il y en a partout. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne permet pas à deux personnes de travailler, de vivre, d'avancer ensemble. Il y a des buts, il y a des volontés complètement opposées, différentes. Et dans ce texte, Jésus va donner l'explication. En Matthieu chapitre 13, versets 31 à 43, on va voir l'explication de Jésus. Jésus dit le texte, alors il laissa la foule et entra dans la maison. Et là, ses disciples, ils viennent lui dire, Seigneur, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. En lisant ce texte les premières fois, ce que je me suis dit, c'est que finalement, ce texte parlait à ce qui se passe dans l'Église, le champ de l'Éternel. Non ? C'est faux. J'ai été étonné, moi, en premier, en relisant ce texte, parce que regardez l'explication de Jésus. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. D'accord ? Le champ, c'est le monde. Ce n'est pas forcément l'Église. Même si dans l'Église, ça peut arriver aussi. On n'est pas forcément... On se dit souvent que dans une Église, quelle qu'il soit, il devrait être un lieu où... où ce qui se produit est pur, est juste, est bon, est respectueux de la parole de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on entend des scandales, des choses terribles. On se dit, mais Seigneur, comment est-il possible? Pourquoi les hommes, ils sont comme ça? Parce que le cœur de l'homme est resté le même, hein, insensible à la volonté de Dieu. Il dit le texte, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et continue dans l'explication. Il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et là, Jésus est en train d'expliquer aux hommes le pourquoi du comment. Quand nous regardons autour de nous tout ce qui se passe, croyez-moi, le conflit que nous voyons là, dans ce texte biblique, c'est ce que nous vivons tous les jours. Si vous regardez un journal télé, je ne sais pas vous, mais à la fin, vous dites que c'est de plus en plus lourd quand même, hein. Il y a des conflits, il y a des choses de plus en plus terribles. Pour quelles raisons les hommes ne peuvent pas vivre en paix? Parce que malheureusement, au fond de leur cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que le cœur de l'homme n'est pas changé, malheureusement, le cœur est attaché à ce qui est le mal et le péché. Et dit la moisson, c'est la fin du monde. Jésus est en train de prêcher déjà la fin du monde. Jésus n'est pas en train de leur prêcher le miracle. Peut-être quelqu'un ce soir est venu en disant « moi j'ai besoin d'un miracle ». Et je suis là pour vous dire aussi que Jésus fait des miracles. Amen, nous le croyons, nous le confessons. Mais le premier but de Jésus, c'est de nous sauver. Certes, notre corps a besoin de guérison, notre âme a besoin de guérison. Combien de fois on a pu voir des personnes venir avec des problèmes de santé, des problèmes au niveau même mental, et Dieu a posé sa main. Des personnes sortir d'années de souffrance, de peine, et avoir fait confiance à Dieu. Et Dieu les a sortis de leur peine, sortis de leur dépression, sortis de leur maladie, parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que finalement, il est temps pour nous d'ouvrir nos yeux si encore nous avons ce réflexe de fermer les yeux devant la réalité qui est là. Dieu nous invite à ouvrir les yeux. Dans la nature, il y a un animal qui, quand il se sent en danger, fait quelque chose d'étrange. L'autruche. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche ? Pourquoi elle met la tête dans le sable? Hein? À votre avis? Elle voit le danger arriver, mais sa réaction, c'est de mettre la tête dans le sable. Comme si, en faisant comme ça, le danger, il est écarté. Comme si, en faisant comme ça, le lion ou le guépard, j'en sais rien, il va passer à côté et il va se dire « non, c'est juste une pancarte ». Ça fait partie du mobilier public et donc il ne le touchera pas. Et combien de personnes, ils se disent encore aujourd'hui « tout ce qui se passe, moi je ne serai pas touché, ça ne peut pas m'arriver ». Excusez-moi, c'est faire l'autruche. C'est faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire on va attendre que ça se passe. C'est pas comme ça que ça va se régler. Parce que le lion, quand il voit l'autruche mettre la tête dans le sable, il se dit je vais pas avoir besoin de courir. Vous avez déjà vu une autruche courir ? Ça va vite, hein ? Elle est même capable de se défendre. Elle est très forte. Mais elle choisit quelque chose qui va la mettre à sa perte. Et si on était en train de faire ce même choix, dangereux pour notre vie éternelle, mettre notre tête dans le sable, alors Jésus dira, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et regardez la suite. Or, quand mon arrache livrée pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. On aimerait que certains problèmes se règlent. Moi, j'aimerais pouvoir sortir de chez moi sans avoir peur que pendant que je ne suis pas là, quelqu'un rentre à la maison. Non ? J'aimerais pouvoir me balader sans avoir le risque que quelqu'un me renverse. Vous pas ? J'aimerais pouvoir me dire que l'avenir pour les enfants est beaucoup plus sûr. Que les enfants ne risquent rien. Qu'une femme qui se promène seule ne risque rien. Qu'aujourd'hui, certaines choses qu'on a pu connaître, des violences qu'on a pu connaître dans le passé, ce n'est plus le cas. Vous imaginez un havre de paix. Ah, quel bonheur. On discutait avec mon épouse il y a quelques jours dans la voiture d'une personne qui a oublié son téléphone sur le toit de la voiture. Il est retourné après quelques heures. Le téléphone était toujours là-bas. Personne ne l'a touché. Faites ça ici. Alors là-bas, et c'est plein de caméras, alors par peur. Et aujourd'hui, certains respectent les choses par peur. Mais Dieu ne veut pas nous inviter à nous approcher de lui par peur. Mais simplement parce qu'on a pris conscience que nous avons besoin de passer de la mort à la vie, que nous avons besoin finalement d'être sauvés, qu'on a besoin de se convertir, de changer de direction pour que Dieu guérisse notre cœur, notre âme, nos sentiments, nos pensées. Alors les anges viendront pour arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, l'injustice, la méchanceté. Il y a un moment où Dieu va faire justice. On parle souvent de justice, mais je me rends compte que nous aussi, parfois, on frôle la ligne entre la justice et l'injustice. On se plaint parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de règles, beaucoup de lois, mais c'est la conséquence de beaucoup d'abus aussi, n'est-ce pas ? Mais la parole de Dieu nous avertit parce que Dieu va faire quelque chose et il dit « ils seront jetés dans la fournaise de feu ». Or, là, il y aura les pleurs, des grincements de dents. Et la suite, elle est incroyable parce qu'elle dit « alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. » Si vous vous rappelez l'image de tout à l'heure, il y avait des épis qui étaient dorés. Vous avez déjà vu un champ doré ? C'est magnifique, hein ? Ça donne envie de rentrer et de dire, voilà, là, c'est ça m'est arrivé de voir ces cultivateurs rentrer dans leur champ et toucher finalement les épis. Et lorsqu'ils prennent une épi dans la main, ils la frottent légèrement pour voir si elle est pleine. Et lorsque l'épi est bien doré, ça veut dire que finalement, le fruit, il est prêt, mais tout ce qui ne sert à rien, la coquille, tout ce qui est prêt à se séparer. Est-ce que nous, on est prêt à nous séparer de ceux qui finalement n'ont pas de valeur ? Parce qu'il n'y a que ce qui a de la valeur qui rentrera dans le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a des épis qui étaient vertes. Celui qui travaille la terre sait faire tout de suite la différence. Et vous savez, si vous regardez, est-ce qu'on peut revenir sur l'image, s'il vous plaît ? L'épi, quand elle est bien mûre, le fruit est à l'intérieur, l'épi se se courbe. Mais l'ivraie reste droite comme un i. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une coquille vide. Elle est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et beaucoup aujourd'hui ont cette image de l'orgueil où à laquelle dedans, il n'y a rien. Dans le cœur, il n'y a rien. Excusez-moi de dire ça, peut-être même dans la tête, il n'y a rien. Si ce n'est que faire des choses mauvaises. Dieu nous invite à faire un choix. Quand il dit que certains ont voulu fermer les yeux, ce n'est pas Dieu qui leur a fermé les yeux, c'est eux qui l'ont fait. Ont voulu fermer leurs oreilles, ce n'est pas Dieu qui leur a fermé les oreilles, c'est eux qui l'ont fait. Parce qu'en ce moment même, moi je sais que le Saint-Esprit est en train de parler dans notre cœur, à chacun. Et il nous amène finalement à cette question, quelle est ta décision ? Il dit le texte que celui qui a des oreilles entende. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image, s'il te plaît ? Il n'y a pas 50 chemins. Hein. Deux. Je me rappelle que, lors de mes études, puisque j'ai fait mes études en Italie, celui qui a écrit un livre sur le purgatoire était d'origine italienne. N'est-ce pas ? Il s'appelle comment ? Voilà, Dante. En italien. Pour les Français, Dante. Et en lisant cette histoire, parce qu'on était obligé de l'étudier à l'école, moi je me rappelle qu'un jour, j'ai eu tout un débat avec la prof. Et je lui dis, mais vous... Je lui dis, il parle de ce qu'il ne connaît pas. Il me dit, comment ? C'est une œuvre. Ouais, j'ai dit, le gars, il a dû fumer quelque chose. Ah, j'étais un peu comme ça. J'ai dit non, parce qu'il s'est imaginé des choses qui n'existent pas. J'ai dit comment il peut quelqu'un de mauvais, finalement, après, se racheter une place dans le ciel. Alors que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour de la grâce, ce n'est pas demain. Et que si nous avons fait le mauvais choix, ben, alors elle me dit, éprouve-moi ça. J'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas prédicateur, j'avais que 14 ans. J'ai dit, mais il y a un texte qui parle du riche et du pauvre. Et il dit, dans cette histoire-là, Jésus ne parle pas d'une parabole. Jésus est en train, finalement, de montrer quelque chose de réel, d'expliquer quelque chose de réel. Et il parle de ce pauvre qui, lui, il s'était accroché à Dieu toute sa vie, mais la pauvreté, la souffrance l'ont amené un jour à mourir. Et le riche que lui avait été dans les biens financiers, qui avait une vie joyeuse, il est mort aussi. Donc riche ou pauvre, on meurt. La différence, c'est après. Parce que finalement, le riche, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'avait rien voulu entendre de Dieu, il a été amené dans la souffrance et dans la peine éternelle. Et le pauvre, lui, qui s'était accroché à Dieu, lui s'est retrouvé dans les bras d'Abraham. Alors le riche, qui pensait encore être riche, il dit à Abraham, écoute, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare ? Hein ? Encore mettre son doigt dans l'eau pour me ramener juste une goutte. Et Abraham lui dit, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a aucun chemin, il n'y a aucun passage entre vous et nous. Pour que qui que ce soit puisse aller de l'autre côté ou quelqu'un de l'autre côté puisse venir ici, il n'y a pas de passage dans le purgatoire, c'est terminé. Et alors cet homme riche, il dit, mais envoie-le à ma famille, à mes frères. Et Abraham, il leur dira, ben, ils ont les prophètes, ils ont la loi. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions nous aussi nous instruire et finalement comprendre ce qui est le paradis, ce qui est l'enfer. Et vous savez ce qui est le plus terrible dans l'enfer ? C'est d'être séparé éternellement de Dieu. Certes, il y a la souffrance, mais la plus grande souffrance, c'est d'être séparé de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains vivent déjà cette souffrance de séparation. Certains, encore aujourd'hui, ne se sont pas peut-être posé cette question, ou en tous les cas, ne se sont pas pencher sur le problème. Et si ça pouvait changer ? Et si les choses pouvaient changer ce vide intérieur? Combien de fois je me suis retrouvé avec des personnes qui m'ont dit « je me sens vide et vidé ». Quand le Seigneur a touché mon cœur, j'étais dans une phase où je pensais au suicide, parce que j'étais vide. J'agissais avec violence, parce que j'étais vidé. Jusqu'au jour où le Seigneur a touché mon cœur. Et il a commencé à remplir ma vie. D'autres pensées, d'autres sentiments, d'autres projets. À une réunion un soir, il y avait un homme qui était là et dont l'épouse était malade. Et cet homme, à la fin de la prédication, est sorti en courant à l'extérieur. Il pleurait comme un enfant. Et je l'ai vu partir de cette manière-là et je suis allé le voir à l'extérieur. Et cet homme me disait, mais je suis vidé. Il dit, mon épouse a la sclérose en plaques. Il dit, quelques années après notre mariage, elle est tombée malade, on a eu un enfant, mais aujourd'hui, c'est une horreur. C'est une horreur. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Et ce soir-là, sur cette place de parking, on a prié ensemble. Et il a demandé secours à Dieu. Quelques mois plus tard, son épouse s'est convertie. Et le Seigneur a renouvelé toutes ses forces. Dieu a renouvelé son courage. Dieu a permis que plein de choses puissent se mettre en route pour qu'il ne soit plus seul à prendre soin de son épouse, mais que sa famille puisse l'aider. Il avait essayé d'avoir un retour parce qu'il était de l'île de La Réunion et il voulait retourner auprès de sa famille pour avoir de l'aide. À chaque fois, les portes étaient bloquées. Parce que quand il demandait à partir à l'île de La Réunion, ses chefs ils pensaient qu'il voulait partir en vacances. Mais en réalité, lui, il avait un besoin. C'était d'être entouré de sa famille. Et ce soir-là, quand il a dit « Seigneur, viens m'aider », le Seigneur a débloqué son travail. Il a permis qu'il ait une mutation à l'île de La Réunion, juste à côté de ses parents. Comme quoi Dieu est bon, n'est-ce pas? Et finalement, plusieurs années plus tard, j'ai pu lui rendre visite et les revoir et les voir heureux, les deux. Malgré les choses, mais elle me disait, tu sais, normalement, les paliers auraient dû être beaucoup plus terribles, mais Dieu est bon. Je crois qu'encore ce soir, Dieu est bon. Et vous savez quoi? Demain, Dieu est bon. Parce qu'il est bon en tout temps, dit la parole de Dieu. Mais si ce soir le Seigneur interpelle votre cœur, c'est parce qu'il voudrait que vous puissiez vous goûter à sa bonté. Que décidez-vous? Personne ne peut vous obliger. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte de foi. Parce que vos yeux et les miens ne le voient pas. Par contre, à l'intérieur, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose qui change. Et une joie qu'on n'a peut-être jamais connue vient prendre place dans notre cœur. Alors j'aimerais tout simplement proposer de fermer nos yeux, et si quelqu'un ce soir voulait, désirait faire ce choix de dire « Seigneur, viens guérir mon cœur, viens guérir mes sentiments, viens guérir, Seigneur, mon âme. » Je voudrais juste vous inviter à, alors que tout le monde est avec les yeux fermés, et je demande à chacun de respecter ce moment, tout simplement vous levez votre main et on va prier ensemble. On va demander au Seigneur de vous aider. Oui, amen. J'ai vu ta main. Oui, j'ai vu votre main. Amen. Oui, amen. J'ai vu ta main. Amen. Oui, j'ai vu ta main. Amen. Oui, amen. J'ai vu votre main. Béni sois-tu. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Vous avez besoin d'une guérison profonde dans votre cœur. Vous vous dites meurtri, mais c'est vous qui meurtrissez ceux qui sont autour de vous. Et ce n'est pas votre caractère qui va changer quoi que ce soit. Il faut que Dieu change votre caractère. Ce n'est pas votre dureté qui va changer quoi que ce soit. Mais c'est la douceur de Dieu qui va changer toute chose. Ça fait des années que vous essayez votre méthode. Ça n'a produit que souffrance. et si vous faisiez confiance vraiment à Dieu ce soir. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui ont fait cet acte de foi de dire, Seigneur, je lève la main, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me conduises, Seigneur, vers un chemin, Seigneur, différent. Seigneur, jusque-là, j'ai pris un chemin, une pente raide, une pente qui m'amène, Seigneur, à glisser toujours plus bas. Mais Seigneur, je désire changer de direction. Je veux te donner mon cœur. Seigneur, je veux te donner ma vie. Toi, tu as donné la tienne à la croix, Seigneur. Moi, ce soir, je veux te donner mon cœur et ma vie et te dire, Seigneur, change-moi. Viens me guérir en profondeur, Seigneur. Viens me rétablir, Seigneur. Le Seigneur connaît les blessures qui sont au plus profond de vous-même. Et ce soir, si dans votre cœur, vous lui dites, Seigneur, viens guérir cette blessure, croyez que Dieu va le faire en ce moment même. Alors que vous avez essayé plusieurs choses, en ce moment même, le Seigneur voudrait guérir votre cœur. Il y a une personne qui est là, ça fait des années, vous voyez des psychologues pour sortir d'une situation douloureuse qui a touché votre enfance. Et le Seigneur, ce soir, veut guérir votre cœur, veut enlever la peine, la souffrance, la haine, la colère qui vous habite. Et finalement, vous donner la paix que vous avez besoin. Cette paix que lui seul peut vous porter et donner.